Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Nous prendrons dès le début de ce journal la direction d'Israël où les habitants viennent de vivre une nuit cauchemardesque. Israël touché par une attaque iranienne sans précédent.
Attaque qui suscite de vives inquiétudes à l'international. Elle fera l'objet d'une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU. Convocation des membres du G7 également, on vous fait le point dans le journal.
Et puis attaque au couteau perpétrée hier en Australie, mercredi à Bordeaux. Le débat sur l'armement de la police municipale relancé. Y êtes-vous favorable? Europe 1, CNews et le JDD vous ont posé la question.
Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, la pop culture. Mathieu Alterman, on parle?
Je vous parle des chanteuses des années 80, mes amours.
Et avec Roland Pérez, ai-je le droit
de consommer du cannabis si je le fais? Écoutez-moi bien, dans un cadre thérapeutique.
Et ce sera après le journal. Et votre tendance météo, Anthony Kazmarek?
Et une dégradation nuageuse essentiellement va donc concerner le quart nord-ouest aujourd'hui. C'est là qu'il fera le moins chaud, 14 à 21 degrés. Mais encore un temps estival ensoleillé au sud et à l'est avec 22 à 29 degrés.
Et météo complète après le journal.
Europe 1.
Et nous prenons donc immédiatement la direction d'Israël, attaquée pour la première fois de son histoire sur son sol par l'Iran.
Téhéran qui a déclenché cette nuit son opération Promesse Honnête en lançant avec l'aide du Hezbollah libanais et des rebelles houthis plus de 200 drones et missiles en réponse au bombardement de son consulat à Damas il y a deux semaines. 99% ont été interceptés avec l'aide des États-Unis selon l'armée israélienne, mais dans le pays, la nuit a été très longue. Les précisions de la correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv, Ariane Ménage.
Beaucoup d'Israéliens ont gardé cette nuit les yeux rivés sur les chaînes de télévision. Sur les écrans, le porte-parole de l'armée israélienne a multiplié les apparitions pour expliquer à la population les consignes de sécurité. Il était un peu plus de 23 heures, heure locale, lorsqu'il a annoncé que l'attaque iranienne était lancée. Très vite, donc, les Israéliens ont commencé à s'organiser pour faire des provisions d'eau, de nourriture, pour retrouver des proches, pour trouver un abri sécurisé. Et puis, passé 1h du matin, les sirènes d'alerte ont commencé à retentir dans plusieurs villes, à Jérusalem notamment, ou à Beersheba, grande ville du sud du pays. Dans ces zones, on pouvait entendre dans le ciel des détonations, voir la lumière provoquée par les interceptions. Ce matin, l'armée israélienne affirme qu'elle n'a pas identifié de nouveaux tirs venus d'Iran, mais c'est toujours l'état d'alerte, et en particulier pour les habitants du nord d'Israël à portée de tirs du Hezbollah allié à Téhéran.
Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv. Bonjour Geoffrey Branger.
Bonjour Alban, bonjour à tous.
Geoffrey, cette attaque sans précédent, elle fait peser la menace d'un chaos total au Moyen-Orient et forcément, les réactions à l'international sont très vives.
Oui, pour l'Égypte d'abord, cette situation fait peser le risque d'une expansion régionale du conflit avec la crainte de voir d'autres pays ou d'autres groupes entrer en guerre contre Israël. Côté européen aussi, Allemagne, Italie, France, on s'inquiète de voir la région tomber dans le chaos. Une crainte justifiée selon David Rigoulet-Rose, docteur en sciences politiques, spécialiste du Moyen-Orient.
On est clairement là dans un risque d'engrenage régional majeur. Il y a un choix lourd de la part de l'Iran qui prend un risque majeur en s'engageant dans une confrontation directe et en attendant évidemment une réponse directe de la part du pays visé, en l'occurrence l'État hébreu.
Les États-Unis condamnent fermement cette attaque. Les forces américaines ont d'ailleurs contribué à abattre les drones et les missiles tirés sur Israël hier. Joe Biden a également annoncé rassembler aujourd'hui ses homologues du G7 afin de coordonner une réponse diplomatique. L'Angleterre, de son côté, a envoyé la Royal Air Force pour soutenir Israël. L'État hébreu qui a par ailleurs demandé une réunion en urgence au Conseil de sécurité de l'ONU. Une réunion qui devrait se tenir ce soir à 22h heure française.
Et la Chine a également réagi ce matin en faisant part de sa profonde de préoccupation concernant l'aggravation actuelle de la situation et appelle à faire preuve de retenue.
L'actualité ce matin, c'est également l'horreur qui a endeuillé l'Australie hier, cette attaque au couteau perpétrée dans un centre commercial de Sydney.
Attaque qui a fait 6 morts et plusieurs blessés, dont un bébé de 9 mois qui a dû être opéré en urgence. Une scène traumatisante pour les centaines de personnes présentes au moment des faits, à l'image de Johan François Philippe. Il travaille comme vendeur dans l'une des boutiques du centre. Il s'est confié à Wilfried de Villers en exclusivité. Pour Europe 1.
C'est le milieu de l'après-midi, les allées du centre commercial de Bandai Junction sont noires de monde quand un homme armé d'un grand couteau se met à frapper de tous les côtés. Au troisième étage, Johan François Philippe est en train de travailler dans sa boutique de bagages quand il entend soudain des cris.
Au départ, nous pensions qu'il s'agissait d'une manifestation violente. C'était très confus. Puis, c'est devenu beaucoup plus clair.
Il aperçoit une personne ensanglantée gisant au sol, ferme boutique, verrouille les portes pour se mettre à l'abri quand une femme vient soudain frapper, hurlant de frayeur.
Quand on lui a ouvert la porte, on a vu l'assaillant chuter derrière elle et un couteau tomber de sa main. On l'a tiré à l'intérieur avant de refermer la porte. L'homme s'est relevé, a repris son couteau calmement avant de poignarder poignarder une femme.
Johan et son collègue assistent impuissants à cette scène d'horreur. L'assaillant poursuit sa course meurtrière dans les allées du centre commercial, tuant 6 personnes, en blessant gravement 8 autres, dont un bébé. L'homme est abattu quelques minutes plus tard par une policière.
Attaque au couteau hier en Australie. Mercredi, c'était à Bordeaux. Des drames qui relancent le débat sur l'armement de la police municipale. Le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, s'y oppose fermement, même son de cloche à Nantes ou encore Lille. Mais les Français, eux, ils sont plutôt favorables dans un sondage CSA que vous révèle Europe 1 CNews et le JDD ce matin. Décryptage avec Arthur Delaborde.
Près de 6 Français sur 10 veulent voir les policiers municipaux armés, ce qui n'est pas le cas dans certaines grandes villes comme Bordeaux, Nantes, Lille ou Paris. Les résultats laissent apparaître un clivage politique. Si les sympathisants de droite et du centre sont très largement favorables à la systématisation du port d'armes, la tendance s'inverse à gauche. Dans le détail, c'est au Rassemblement national que l'on souhaite le plus armer les policiers municipaux. 77% des partisans du RN y sont favorables, position partagée par 68% des sympathisants du parti présidentiel Renaissance. À gauche, c'est au Parti Socialiste qu'on se montre le plus hostile à l'idée. Seulement 42% des soutiens du PS sont pour. Un chiffre à peine plus élevé, 43% chez les Insoumis.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
Et la présence policière, elle a été renforcée au Champ de Mars à Paris.
Secteur dans lequel la délinquance a baissé de manière significative, s'est félicité hier Laurent Nunez. Selon le préfet de police de Paris, la mobilisation renforcée des forces de l'ordre à 100 jours des Jeux Olympiques a permis de faire chuter de 58% en un an les atteintes aux personnes, 18% pour les atteintes aux biens.
Et puis, nouveau signe de cette ultra-violence qui s'installe en France, un arbitre de foot frappé à coups de pied, de genoux et de poing après un match de district.
Le pire a sûrement été une nouvelle fois évité la semaine dernière, puisqu'à la fin d'un match de l'AS Bellecour-Perrache, 3 joueurs âgés de 15 ans seulement ont suivi l'arbitre, puis l'ont lynché alors qu'il attendait un arrêt de tram. Les ados ont écopé d'une suspension de 20 ans, 2 ans pour le président du club. Les précisions de la correspondante d'Europe 1, Noémie Loisel.
J'étais désespéré, je savais que ça allait mal finir.
Jamais Adam, ce jeune arbitre de 15 ans, n'a pensé se faire agresser. Mais le 9 mars dernier, la tension monte d'un cran lors du match qui oppose l'équipe lyonnaise à AS Bellecour-Perrache au pont de Cherui. Adam sanctionne d'un carton rouge et de plusieurs jaunes les joueurs lyonnais. L'équipe adverse égalise. Pour les Lyonnais, le coupable, c'est Adam. Ils veulent alors en découdre et commencent à le menacer jusque dans les vestiaires, puis l'attendent à la sortie devant le stade. Il sera finalement retrouvé et poursuivi à quelques mètres de là, à son arrêt de tram.
Ils ont commencé à m'encercler. J'ai reçu plusieurs menaces de mort. J'ai reçu des coups de poing, des coups de pied, coups de coude. Ils m'étaient même sorti avec des bleus tout au long de la cuisse droite. Je me suis dit, c'est fini pour moi peut-être. J'étais devant 30 personnes. Je ne savais pas si j'allais m'en sortir ou pas.
L'adolescent réussit finalement à s'échapper. Aujourd'hui, malgré l'angoisse et la peur toujours présente, Adam est retourné arbitrer.
Pour moi, c'est important de continuer pour montrer comme quoi ils avaient tort de faire ça, que ça rend juste plus fort.
Depuis, ses parents l'accompagnent à chaque match. Adam a eu 5 jours d'ITT. Une plainte pour agression a été déposée. Lyon, Noémie Loisel, Europe 1.
Oui, on va passer au sport à présent, Alban, avec du tennis et le tournoi de Monte Carlo. Casper Ruud a créé la surprise.
Et oui, le jeune Norvégien a déjoué les pronostics en s'imposant pour la première fois face à Novak Djokovic en 3-7, 6-4, 1-6, 6-4. Alors qu'arrive-t-il au Serbe ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour lui, Christopher Filhoc ? Je rappelle que nous ne sommes qu'à un mois seulement du début de Roland-Garros, dont Europe 1 est la radio officielle.
Eh bien, Novak Djokovic s'était qualifié dans le dernier carré de la compétition, une première depuis 2015. Auteur d'une saison dernière sensationnelle, hein, 3 grands chelems, 2 Masters 1000. Le Serbe marque le pas depuis le début de l'année, pas de titre à son actif. À Monte Carlo, l'homme aux 24 titres en grand chelem n'a pas affiché un niveau de jeu extraordinaire et a même semblé très marqué par la chaleur, notamment lors de son quart de finale au micro d'Eurosport.
Ça a été dur, beaucoup de fatigue, j'ai souffert sur le court physiquement. Je sais pas qu'est-ce qui passe, mais c'est pas mon niveau meilleur, mais je tous les jours cherche pour mon niveau maximum.
Auteur de 32 fautes directes, Novak Djokovic a alterné le bon et le très moyen, finissant même sur une double faute. Il avait déclaré avant le tournoi qu'il n'avait pas de réelles attentes, mais le Serbe a réussi à se hisser jusqu'en demi-finale sans produire un tennis extraordinaire. De quoi prendre des repères pour Roland-Garros où il sera certainement plus en maîtrise.
Christopher Filhoc, la finale du tournoi de Monte-Carlo, c'est donc cet après-midi à 15h. 100 seulement Novak Djokovic, mais ce sera Casper Ruud et Stefanos Tsitsipas. Et puis en foot, Strasbourg respire un peu grâce à sa victoire hier en 29e journée de Ligue 1 face à Reims, 3-1. En revanche, la série noire continue pour Rennes avec une nouvelle défaite face à Toulouse, 2-1. Trois matchs à suivre aujourd'hui à 13h, Le Havre-Nantes, à 15h, Clermont-Montpellier et à 20h45, Lyon-Brest.
Avec un match de haute tension entre Lyon et Brest. Merci beaucoup, Alban Le Prince. Il est 7h10 sur Europe 1, Anthony, et on a constaté en arrivant cette nuit au travail que les températures avaient baissé.
Hein. Eh oui, il fait un petit peu moins doux qu'hier matin, mais enfin, ce n'est pas non plus la catastrophe. 9 à 19 degrés, c'est quasiment estival encore, mais on perd 1 ou 2 degrés par rapport à hier avec un petit vent qui a tourné au secteur ouest, hein, d'où cet apport de fraîcheur. Et cet après-midi, les températures vont bien baisser sur un beau quart nord-ouest, entre 14 et 21 degrés. Ce qui va rester doux pour la saison, mais nous n'aurons plus cette sensation estivale. Avec des records battus hier après-midi, il a fait jusqu'à 32 degrés dans l'Aude. Dans le sud et l'est, les températures vont rester encore estivales cet après-midi. Je vous donne la fourchette des températures, 14 degrés à Cherbourg et encore 29 pour Grenoble, Toulouse, Limoges et Périgueux. Vous aurez 28 à Lyon et à Bordeaux, 27 degrés à Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, 26 à Marseille, Strasbourg et Besançon, 25 degrés à Bourges, 23 pour La Rochelle et Montpellier, 21 à Paris et à Nantes, 19 à Rennes et Reims, 16 degrés à Lille et à Caen et 15 pour Brest et Abbeville. Et puis qui dit baisse des températures, les Naïcs, dit forcément arrivée de nuages.
Forcément.
Et ces nuages, ils sont ce matin entre les Pays de la Loire, l'Île-de-France, la Normandie et les Hauts-de-France. Et ils vont s'étaler sur toute la moitié nord dans l'après-midi. Alors ce sera plutôt un ciel variable qui alternera donc entre ces nuages et des éclaircies quand même, sauf sans doute en bord de Manche, où là c'est un voile très épais qui va s'installer quasiment gris, avec déjà quelques gouttes en Bretagne, dans les autres régions, au sud et à l'est, toujours du soleil.
Merci beaucoup Anthony, vous restez bien sur Europe 1, il est 7h11. On continue de suivre évidemment dans les journaux sur Europe 1, l'Iran qui a lancé cette attaque inédite sur Israël. Invité d'Europe 1 matin week-end, dans une heure, le général Palomero sera également en notre compagnie, mais on continue de développer nos programmes évidemment, avec Mathieu Alterman qui arrive d'ici quelques instants, avec les chanteuses des années 80 dont on est fou, enfin lui surtout, et puis juste avant lui, Maître Roland Pérez. Ai-je le droit de prendre du cannabis thérapeutique en toute légalité? C'est dans un instant. Bon dimanche à l'écoute d'Europe 1.
Europe 1. Et voilà, depuis que ma mère a pris une paire de lunettes de sport à mon frère, il n'a plus de raison de sécher le sport à l'école. Mais voilà, mon frère au handball, il est...
Hé, hey, Yama là. Oh,
vraiment nul.
Chez Atoll, la deuxième paire est toujours utile. En ce moment, bénéficiez de la deuxième paire de sport à la vue jusqu'à moins 50% chez votre opticien Atoll. Et pour un meilleur confort visuel, choisissez les verres Essilor. Dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien, voire sur atoll.fr.
À tous ceux qui ne savent pas quoi prendre à Sylvie pour son anniversaire. À ceux qui ont trouvé la bonne parade. Nous, on apporte le gâteau. Mais qui ont oublié qu'il y avait 40 invités. Attends, genre Sylvie, elle a 40 amis? Dès mardi, Intermarché rembourse 50% de vos achats sur le rayon surgelé sucré en deux bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un rayon 50% remboursé en bons d'achat.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 21 avril, des 10 euros et jusqu'à 20 euros d'achat. Offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Hey, trop de boulot. Tu sais si on a une bonne couverture dans cette boîte?
Ah oui, ici on a le top de la couverture, hein, en lin, en coton et même en marbre. C'est classe, mais c'est un peu froid.
Attendre des siècles une bonne couverture santé pour vos salariés, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, vos collaborateurs bénéficient d'une couverture santé adaptée à leur secteur d'activité et ses obligations et ont accès à des ateliers de prévention sur mesure. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Souscription, informations et conditions sur aesio.fr ou auprès de nos conseillers.
Matin week-end, 6h-9h, Lénaïque Monnier.
Allez, comme promis, il est l'heure de retrouver Roland Pérez, Mathieu Alterman, qui est dans le studio, qui sera avec nous dans un instant pour parler pop culture.
Ah bah, je vais vous parler des chanteuses des années 80, mes amours.
Ça va déjà.
Des chanteuses, pas chanteuses.
Voilà, regardez comme ils sont excités,
les chanteuses,
déjà,
oui.
Les deux.
Ah oui, moi je préfère les chanteuses.
Oui, préfère chacun les chanteuses. Son truc, hein. Bon. On va se tourner vers Roland avant cela. Rebonjour Roland.
Rebonjour à tous.
Avec cette question.
Bien, lui aussi.
Alors attention les garçons, tenez-vous bien. On demande ce matin à Roland si nous avons le droit de consommer du cannabis, mais évidemment dans un cadre thérapeutique.
Alors à votre avis?
Bah oui, non.
Alors, petit rappel quand même, s'agissant de l'usage du cannabis, d'ecstasy, de cocaïne ou de toute autre substance psychoactive illicite, le délit est a priori puni d'une amende maximale d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende. Donc ici, on n'est pas là pour faire la promotion de toute utilisation illicite de drogue. En revanche, dans le cadre de l'expérimentation du cannabis thérapeutique, l'usage de médicaments à base de cette plante est autorisé.
Alors, on imagine que c'est très réglementé. Roland, quel type d'affections sont concernées?
Alors, je prends ma petite fiche parce que je ne suis pas médecin. Ce sont pour des douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies accessibles, donc médicamenteuses ou non. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver un substitut qui permettrait de pouvoir atténuer les douleurs. Certaines formes d'épilepsie pharmacorésistantes, là aussi, figurez-vous, et certains symptômes rebelles en oncologie lié à un cancer ou à un traitement anticancéreux. Donc vraiment, on s'aperçoit que le cannabis est entré dans la médecine pour pouvoir atténuer les douleurs, non pas soigner, mais au moins atténuer les douleurs.
Alors vous nous disiez, Roland, que si on était au stade de l'expérimentation, est-ce que cela veut dire que forcément ça va s'arrêter?
Alors oui, ça a commencé en fait le 26 mars 2021, il y a 3 ans.
D'accord.
Un premier patient a été inclus dans le dispositif mis en place à cette date, et 3 ans plus tard, donc normalement le 26 mars 2024, il y a quelques semaines, l'expérimentation devait se terminer. Si ce n'est que, on n'a pas mis encore au point un médicament à base de cannabis qui soit autorisé par les autorités de santé, puis commercialisé. C'est très long, vous savez, c'est les contrôles des autorités de santé. Donc, ils ont retardé l'expérimentation qui doit s'achever maintenant, au plus tard, au 31 décembre 2024.
Et donc, Roland, les patients pourront encore bénéficier de ce cannabis à des fins thérapeutiques ou pas, alors?
Oui, mais pas les nouveaux patients. C'est-à-dire que si nous, aujourd'hui, on rentre dans un programme de traitement quelconque, on ne pourra pas bénéficier de cela. Et en fait, on va prolonger ceux qui avaient commencé en 2021 à en bénéficier.
D'accord.
Et ils vont pouvoir continuer à en bénéficier jusqu'à fin 2024. On veut assurer la continuité du traitement pour les patients déjà inclus dans le dispositif. Et donc, seuls eux vont pouvoir continuer à bénéficier des prescriptions et délivrances de médicaments à base de cannabis. Là, actuellement, il y a une autorisation qui a été donnée, une autorisation provisoire qui a été donnée par l'Agence nationale de sécurité du médicament pour une période justement temporaire.
Est-ce que vous nous parlez que de la situation en France? Parce qu'il y a des pays où ça fait 10 ans que ça existe, on devrait peut-être regarder ce qui marche chez nos voisins.
Bah, de toute façon, on l'a vu là, je crois en Allemagne et je ne sais plus dans quel autre pays, je crois que depuis le 1er avril, le cannabis est large...
Les Pays-Bas,
est légalement autorisé.
Mais c'est pas la même chose.
Non, mais l'utilisation du cannabis, donc on suppose que les médicaments à base de cannabis pourraient être...
La substance active est un peu différente.
Oui, peut-être, mais en tout cas, elle est réglementée. En tout cas, ici, il faut savoir que les patients sont notamment informés lorsqu'ils reçoivent ces médicaments, des précautions particulières d'emploi de ces médicaments, des effets indésirables comme pour tout médicament et des contre-indications.
Et est-ce qu'on imagine, Roland, qu'il y aura à terme des médicaments à base de cannabis?
Alors, c'est vraiment la piste aujourd'hui qui est recherchée. Ils sont en train d'y travailler activement. Et d'ailleurs, pour en revenir à l'usage illicite du cannabis, depuis 2019, le Code de la santé publique a largement atténué les consommateurs, on va dire, qui consommaient donc illicitement des stupéfiants pour donner lieu à une amende forfaitaire. Ainsi, une personne interpellée en train de consommer des stupéfiants ou en possession de petites quantités peut recevoir une simple amende forfaitaire de 200 euros.
Ah oui, 200.
Ça augmente, Christophe. Voilà.
Tout augmente en
tout
même
augmente,
temps.
Voilà.
Mais comme il fume rien.
Non, moi je fume rien.
Il fume juste un peu la moquette. Alors, délivré immédiatement.
Dans l'équipe de Repas Matin Week-end. Nous sommes des gens sérieux.
Et donc, le paiement de cette amende de 200 euros met fin à toute poursuite judiciaire aujourd'hui. Donc, c'est vous dire quand même que le cannabis est plutôt bien vu.
Et merci Roland. Europe1.fr pour réécouter vos conseils. Et puis, vous restez bien sur Europe 1 parce qu'après le journal permanent, et là, les garçons, on sait déjà que ça va vous plaire, même si ça nous plaît à chaque fois. Mathieu, on parle.
Je vous parle des chanteuses des années 80 qui ont eu beaucoup de succès, qui ont un peu, voire carrément disparu.
À tout de suite, Mathieu. Il est 7h18.
Europe 1 Matin Week-end.
6h, 9h, Lénaïque Monnier.
Lors du journal permanent Alban Le Prince.
Avec cette attaque sans précédent cette nuit en Israël, avec le lancement de l'opération iranienne Promesse Honnête, Téhéran a lancé plus de 200 drones et missiles sur l'État hébreu en réponse au bombardement de son consulat à Damas il y a 2 semaines. Ce matin, Tzahal affirme avoir intercepté 99% des tirs. Joe Biden, le président américain, affirme de son côté rester vigilant face à toutes les menaces. Par ailleurs, il annonce avoir convoqué ses homologues du G7 ce dimanche. Une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU est aussi prévue ce soir à 22h, heure française. Notez également que le Mossad affirme à l'instant que le Hamas a rejeté le projet de trêve à Gaza. À 100 jours des Jeux Olympiques, Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, se félicite du renforcement de la présence policière au Champ de Mars, en bas de la Tour Eiffel. En un an, les atteintes aux personnes ont chuté de 58%. Et puis du foot, avec une nouvelle défaite pour Rennes, hier en 29e journée de Ligue 1, battu 2-1 par Toulouse, rencontre marquée par des affrontements entre supporters avant le match. Bilan 10 blessés, dont un hospitalisé pour un possible traumatisme crânien.
Merci Alban Le Prince.
Europe 1 Matin Week-end.
6h, 9h, Lénaïque Monnier.
Allez, ils sont restés dans le studio, Roland Pérez et Christophe Bordet, pour la pop culture.
On fait des vocalises, ouais, là, tous les deux.
Bonjour Mathieu Alterman.
Bonjour tout le monde.
Nous parlons de ces chanteuses des années 80 que vous adorez, que vous adulez.
Oui, je sais qu'autour de la table et que parmi les auditrices et auditeurs d'Europe 1, il y a de grands nostalgiques des années top 50, de l'époque où l'on enregistrait sur cassette nos chanteuses préférées pour en profiter égoïstement sur notre Walkman. Et ce matin, j'ai envie de nous replonger dans quelques mélodies inoubliables de voix qui n'ont pas su perdurer, comme si elles étaient prisonnières de ces années 80 flamboyantes. Alors, écoutez bien, je sens que ça va chanter. Si je vous dis Jackie Quartz, vous pensez à juste une mise au point, mais ce serait trop facile. Il y a un deuxième tube au clip tourné en 1986 à la Cité des Sciences pour faire moderne.
Vivre ailleurs pour le meilleur.
Je savais que Christophe serait en transe. Vivre ailleurs, un titre hélas prémonitoire pour son interprète qui est partie vivre loin du top 50. Elle fut avec Jeanne Masse l'une des deux seules artistes à avoir eu deux 45 tours classés en tête du top, c'est Elsa.
Ah oui.
Et sa plus belle chanson est indiscutablement son deuxième disque sorti en 1987, Quelque chose dans mon cœur, où les aves de l'adolescence, dont la jeune artiste aura du mal à sortir aux yeux du public après des débuts couronnés de succès.
Devenue actrice depuis.
Nettement moins innocent pour ce morceau lubrique et parfumé d'indécence par Gage Paty. Chanson qui compliquera quelque peu le quotidien des Étienne qui n'avait pas l'ambition d'héroïsme érotique le temps d'une chanson.
Alors, on vous connaît bien, Mathieu, vous allez nous sortir aussi des One Hit Wonder, comme on dit en anglais. Celle au succès unique, évidemment.
Oui, mais qui, j'en suis sûr, sont toujours dans les mémoires. Sarah Mandiano, son nom vous rappelle quelque chose? Et pourtant, son tube énorme, vous l'aurez tout le week-end en tête.
Mais ça, c'est passé en boucle, oui. À la radio.
Énorme succès en France, en Haïti et au Congo, elle tient aujourd'hui un hôtel à Nice. Alors, en mode plus romantique et produit à Toulouse, capitale de la pop éphémère des années 80, j'ai Pacific, ce groupe monté en 1989 par un ancien d'Image et une chanteuse blonde qui s'époumnomme avec nous. Je sens que Christophe Bordet va défaillir.
Très sérieux rédacteur en chef de la matinale de l'Europe 1 et s'est lâché un peu le week-end.
Roland connaît moins parce qu'il n'était pas né en fait.
Moi, j'étais beaucoup trop jeune et j'écoutais pas ce type de musique.
Vous aviez quoi, 11 ans?
J'écoutais
dans les
Tchaïkovski, années 90, Beethoven, Mozart.
Voilà, voyons, au palace, on s'en souvient. Mathieu, vous nous avez réservé vos préférés pour la fin, évidemment.
J'aurais pu vous parler de Claudia Philips et Quel souci la Boétie, de Caroline Grimm et La vie sans toi, mais j'ai envie de revenir sur Douchka, enfin sans jeu de mots. La chanteuse Égérie Disney,
vous n'êtes pas
trop
sorti avec vous.
Trop sexy, il était trop jeune encore. Chanteuse Égérie Disney, mais trop sexy pour son public et qui m'a tant marqué à 9 ans. Et enfin, celle qui fut la reine absolue de l'époque, qui était destinée à la carrière de batteuse de jazz car premier prix de conservatoire, mais qui prit la tangente en tant que comète de la pop musique légère et dansante, Karen Cheryl, redevenue Isabelle Morizet, et qui vient d'autoriser Warner Music à ressortir ses tubes en maxi 45 tours trop stylé.
Pense à moi quand
Super bien. Vive les succès éphémères, la légèreté dont on a tant besoin et nos années de jeunesse qui ne nous coûteront jamais. Bon dimanche.
Bon dimanche, Mathieu.
Et bon dimanche à tous sur Europe 1 à 7h23. On poursuit en musique avec le célèbre I Got You de James Brown, plus connu sous le nom I Feel Good. C'est un iconique Europe 1.
Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A
like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice.
I Got You de James Brown, un iconique Europe 1, un titre qui a marqué l'histoire d'Europe 1 il y a 60 ans déjà, en 1964. Des nouvelles encore des auditeurs d'Europe 1 connectés sur nos réseaux sociaux, sur la page notamment Europe 1 Matin Weekend. Philippe à 8 degrés en vallée de Chevreuse, notre fidèle Flavienne à Reims 12 degrés, mais plus que 19 cet après-midi. Après une belle chaleur hier, les nuages arriveront aussi sur Reims. Christine à 13 degrés ce matin en Auvergne, il en fera 28 cet après-midi. Et puis Monique me demande si une belle et chaude journée s'annonce. Ben oui Monique, puisque vous êtes en Isère à Saint-Étienne-de-Saint-Jouarre et là, le temps estival va encore durer aujourd'hui avec soleil donc et forte chaleur.
Et dans un instant sur Europe 1, le journal de 7h30 avec Alexis de la Fléchère. Vous le savez, depuis ce matin, dans tous les journaux d'Europe 1, Matin Week-end, nous vous parlons de cette attaque de 350 drones lancés par Téhéran sur Israël. On continue de suivre l'actualité depuis les États-Unis, depuis également Israël avec les correspondantes d'Europe 1, Ariane Ménage et Aviva Fried. On en reparle d'ici quelques instants. Et puis je précise également que l'invité d'Europe 1 Matin Week-end à 8h12 sera le général Paloméros, justement pour essayer de comprendre un peu le contexte et les conséquences de cette attaque cette nuit.
Le 15 avril 2019, Notre-Dame de Paris brûle.
J'ai vu beaucoup de gens très émus, c'est vraiment désastreux.
La France entière et le monde assistent impuissants au drame.
Il y a déjà des centaines, peut-être même un millier de personnes.
Cinq ans après,
Europe 1 se souvient.
Impossible de quitter des yeux l'édifice en flammes.
Demain, Europe 1 consacre une journée spéciale à Notre-Dame.
Comment le traumatisme a-t-il été surmonté ? Pourquoi tant de Français, de toute confession, ont-ils donné pour permettre la restauration ?
Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore.
Notre-Dame de Paris, 5 ans après. Journée spéciale demain sur Europe 1.
Bonjour Anne, vous êtes aidante.
Oui, depuis 2 ans maman est seule et je passe la voir tous les jours pour l'aider et qu'elle puisse rester chez elle.
Parlez-moi d'Intégrance.
Intégrance, c'est la mutuelle de maman et c'est aussi la mutuelle qui prend soin de moi. Entre maman, les enfants, mon travail, ça devient compliqué pour moi. Intégrance nous propose des solutions, ça nous aide beaucoup toutes les deux.
Comme Anne, presque un salarié sur 4 aide un de ses proches et s'expose à un épuisement physique et psychologique. Aidant, senior ou employeur, faites-vous aider. Rendez-vous sur intégrance.fr.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. C'est pour vous dire que votre imprimante Canon fonctionne hyper bien en Wi-Fi.
Ah, bien sûr.
Et du coup, je sais pas où est ma femme, mais elle arrête pas d'imprimer des recettes de cuisine.
On vous laisse la chercher. Mais n'oubliez pas, du 9 au 20 avril, pendant l'opération Nos super pouvoirs d'achat chez Leclerc, l'imprimante multifonction Canon avec moins 20 euros est à 39,99 €.
Chérie, t'es où ?
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Garantie 2 ans, modalité et magasins participants sur www.e.leclerc.
Europe 1 Matin Week-end.
6h, 9h.
Lénaïque Monnier.
On vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute d'Europe 1 et on vous remercie de nous avoir choisi pour vous informer à cette journée d'actualité très dense, comme vous allez l'entendre avec le journal de 7h30 qui vous est présenté par Alexis de la Fléchère. Bonjour Alexis.
Bonjour les naïcs, bonjour à tous. Et à la une, l'Iran a lancé plus de 200 drones et missiles cette nuit vers Israël. L'État hébreu visé pour la première fois de son histoire par une attaque iranienne d'ampleur. Retour en début de journal sur ces derniers jours qui laissaient présager cette offensive.
Au menu également, les élections européennes. La campagne se poursuit, les écologistes organisent un grand meeting aujourd'hui à Paris. On y revient dans le journal.
Et puis la colère à Guingamp face à la pénurie de médecins et à un hôpital à bout de souffle. Une manifestation doit s'élancer ce dimanche.
Votre prochaine demi-heure sur Europe 1. Par ici, les sorties. Nicolas Carreau, on lit.
On part chez Richard Gottener.
Ah, oh, chouette. Et avec vous, Laura Tenoudji. Quelle découverte.
On accueille des artistes dans son appartement.
Juste avant vous, Christophe Bordet. Bienvenue chez vous, nous parle immobilier. Tout ça, c'est après le journal. Et votre tendance météo, Anthony Kazmarek.
Et le temps commence à changer sur le quart nord-ouest aujourd'hui avec l'arrivée de quelques nuages, une nette baisse des températures, plus que 14 à 21 degrés, ce qui reste doux. Partout ailleurs, au sud et à l'est, encore un temps ensoleillé, estival avec 22 à 29 degrés.
Et météo complète après journal.
Europe 1.
Et à la une, donc Alexis, des paroles aux actes. L'Iran a donc mis hier ses menaces à exécution en tirant plus de 350 drones et missiles sur Israël.
Jamais la République islamique d'Iran n'avait attaqué aussi frontalement son ennemi juré. Mais cette offensive n'a pas fait de dégâts majeurs selon Tzahal, simplement des dégâts mineurs sur une base aérienne. L'État hébreu dit même ce matin que l'attaque iranienne a bien été déjouée grâce notamment à l'aide de ses alliés. Joe Biden affirme que les forces américaines ont contribué à abattre presque tous les drones et missiles tirés par l'Iran sur Israël. Le président américain a fait part aussi de son soutien inébranlable à Israël. A noter aussi que l'espace aérien israélien vient de rouvrir.
Une attaque iranienne, Alexis, qui se faisait de plus en plus pressentir.
Oui, le régime iranien a affirmé depuis plusieurs jours vouloir punir Israël après l'attaque de son consulat à Damas. Et c'est donc hier soir, vers 22h heure française, que l'on apprend que l'Iran lance cette attaque de drones vers Israël. Retour sur une journée d'escalade avec Caroline Baudry.
Samedi après-midi, heure française, un navire accusé d'être en lien avec Israël est saisi par l'Iran près du détroit d'Ormuz, de propriété britannique. Il bat pavillon portugais. À son bord, 25 marins indiens, philippins, pakistanais, russes, estoniens, qui vivent un abordage par hélicoptère, un acte de piraterie internationale, dénonce Israël, qui exhorte l'Union européenne à classer les gardiens de la révolution organisation terroriste. En début de soirée, fait inhabituel, le président américain Joe Biden écourte son week-end, retourne à la Maison Blanche. Il appelle l'Iran à libérer immédiatement le navire qu'il a saisi. Peu après, Israël annonce la fermeture des écoles et limite les rassemblements à 1000 personnes dans le pays. La Jordanie ferme son espace aérien dans la foulée. Israël s'est préparé à une attaque directe de l'Iran, déclare son premier ministre Netanyahou. Des dizaines d'avions patrouillent dans le ciel quand les premiers drones iraniens explosent, interceptés par le dôme de fer.
Caroline Baudry a noté aussi que les alliés de l'Iran, le Hezbollah libanais et les rebelles yéménites houthis ont mené aussi hier des attaques anti-israéliennes. Le premier en tirant des roquettes sur le Golan, les seconds en lançant des drones. Une escalade qui renforce la crainte d'un embrasement au Moyen-Orient. Écoutez l'analyse de David Rigoulet-Rose, il est chercheur à l'IRIS spécialisé du Moyen-Orient.
On est clairement là dans un risque d'engrenage régional majeur. Ce qui n'était pas assuré, il y avait un questionnement sur les modalités de la réplique. Certains envisageaient que l'Iran se limiterait effectivement à une réplique via ses mandataires. Et là, manifestement, c'est pas le cas. Donc c'est un choix militaro-politique, en sachant que les drones peuvent être abattus. Hein, ça met plusieurs heures pour arriver. Il y a un choix lourd de la part de l'Iran qui prend un risque majeur en s'engageant dans une confrontation directe et en attendant évidemment une réponse directe de la part du pays visé, en l'occurrence l'État hébreu.
David Rigoulet-Rose, spécialiste du Moyen-Orient.
Et après cette attaque iranienne, eh bien les réactions, Alexis, internationales se sont multipliées.
L'Iran franchit un nouveau palier dans ses actions de déstabilisation et prend le risque d'une escalade militaire. Les mots sur X du ministre des Affaires étrangères français Stéphane Séjourné. Personne ne veut voir de nouveaux bains de sang, dit de son côté le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Tandis que Berlin craint désormais une situation de chaos dans la région. Contexte sous haute tension, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sécurité de l'ONU est prévu ce dimanche. Puis c'est à souligner aussi ce matin, le Mossad, on l'a appris il y a quelques instants, les services de renseignement israéliens affirment aujourd'hui donc que le Hamas a rejeté à Gaza le dernier projet de trêve.
Autre guerre en Ukraine, cette fois-ci avec une situation qui se détériore sur le front est ukrainien.
Oui, c'est ce qu'a dit hier le commandant en chef des forces ukrainiennes, constatant une intensification de l'offensive de l'armée russe. Moscou pousse par ailleurs en direction de Tchassif Yar, une localité clé de la partie orientale de l'Ukraine. L'actualité internationale marquée aussi par cette attaque au couteau hier dans un centre commercial en Australie. À Sydney, un homme a tué 6 personnes avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Il a fait aussi plusieurs blessés, dont un bébé de 9 mois. Selon les derniers éléments de l'enquête, l'assaillant souffrait d'une maladie mentale. Aucun élément n'indique pour l'instant un caractère terroriste dans ce drame.
Un retour en France à 2 mois des élections européennes. Eh bien, la chasse aux voix se poursuit.
Et aujourd'hui, c'est Marie Toussaint, tête de liste écologiste, qui organise son premier grand meeting de campagne à Paris. Un moment fort pour les écologistes, alors que cette campagne de la candidate prend l'eau, Alexis de la Fontaine.
La chute sondagière est vertigineuse. Rendez-vous compte, depuis l'annonce de sa candidature, le score de Marie Toussaint a été divisé par 2. Crédité aujourd'hui de 5% des voix, les écologistes risquent de perdre tous leurs députés européens, alors que Yannick Jadot avait surperformé il y a 5 ans avec près de 14% des votes. Une situation alarmante chez les écologistes qui redoutent une dynamique Raphaël Glucksmann. Le socialiste, lui, grimpe dans les sondages et commence à concurrencer la majorité présidentielle, à tel point qu'on craint un vote utile à gauche en sa faveur, reconnaît un élu écologiste. Et la tendance ne devrait pas s'inverser à court terme, car Marine Tondelier, la chef des Verts, reste empêtrée dans des querelles internes. Plusieurs élus lui reprochent sa gestion du parti, comme sur l'affaire Julien Bayou, accusé de harcèlement. Il a finalement démissionné. Face au mur, Marine Tondelier a rappelé ses membres à la responsabilité et à la bienveillance dans un courrier interne, bien consciente que son destin à la tête des Verts est intimement lié au résultat du 9 juin.
Alexis de la Fontaine pour Europe 1.
Et on en vient, Alexis, à cette question dans un contexte d'insécurité grandissant en France. On l'a vu récemment avec cette attaque au couteau à Bordeaux. Faut-il systématiser le port d'armes pour les policiers municipaux?
À cette réponse, 59% des Français disent oui, selon un sondage exclusif, c'est ça pour Europe 1, CNews et le JDD ce matin. Un avis que partage Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police Unité.
Il dit que oui, je suis favorable, mais bien sûr avec de l'encadrement, de la formation, comme la police nationale. Si vous voulez, depuis 2015, on a changé d'air. On a des attentats terroristes ou alors d'actes de fous. Avec un bâton télescopique de défense, vous ne pouvez pas neutraliser une personne qui a un couteau. Moi, j'ai en mémoire, depuis 2015, la collègue Clarissa Jean-Philippe, qui a été lâchement assassinée par le terroriste Koulibaly, elle n'était pas armée. Alors peut-être que ses collègues, s'ils avaient une arme, ils auraient pu intervenir, ils n'ont pas pu le faire. Et puis en fait, en octobre 2020, aussi à Nice, à la basilique Notre-Dame, les primo-intervenants, c'était la police municipale, qui était armée, qui a réussi à neutraliser le terroriste.
Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police Unité, ce matin sur Europe 1.
Et cette manifestation à présent, Alexis, annoncée aujourd'hui même à Guingamp, manifestation pour interpeller les pouvoirs publics sur la détresse médicale du territoire.
Face au manque de médecins sur place, l'idée d'envoyer des médecins cubains avait été proposée en février dernier, avait fait le buzz. Depuis, aucun renfort n'est arrivé, qu'ils viennent de Cuba ou d'ailleurs. Alors à l'appel de plusieurs syndicats, de soignants et d'élus locaux, une manifestation est organisée ce dimanche à Guingamp, départ 14h, pour dénoncer un système grippé menant à des situations complètement invraisemblables.
On voit tous les 2 mois dans les journaux des mamans qui ont accouché sur la route avec l'aide des pompiers parce qu'ils n'ont pas pu rejoindre la maternité de Saint-Brieuc.
Accompagné de la photo des parents soulagés et des pompiers souriants, c'est en effet le genre d'événement dont raffole la presse locale, mais pas du tout Philippe Le Goff, le maire de Guingamp.
Ça cache une réalité. Chacun se dit qu'on a pu passer à côté du pire parce que on n'était pas en sécurité médicale par rapport à ça.
Et cette sécurité médicale ici, elle fait cruellement défaut. Du généraliste au spécialiste, c'est la pénurie de soignants. Résultat, les structures fonctionnent ralenti, voire ferme, tout simplement. Et pourtant, il y aurait une solution, c'est le mot d'ordre de la manifestation d'aujourd'hui.
Nous voulons reprendre la gestion de la sécurité sociale.
Damien Salis, secrétaire général CGT Santé Action Sociale des Côtes d'Armor.
Car depuis que c'est les ARS qui gèrent, on est dans une logique budgétaire de faire des économies, là où avant on était dans une logique de répondre aux besoins. On avait le meilleur système de santé au monde. Et aujourd'hui, on n'arrive même plus à se soigner correctement.
Ainsi, l'agglomération Guingampèze, par exemple, ne compte que 5,8 généralistes pour 10 000 habitants contre 9,6 pour la moyenne nationale.
Charles Guyard pour Europe 1.
Et on termine votre journal, Alexis, avec un dessin animé qui a bercé l'enfance de beaucoup d'entre nous.
46 ans que le premier épisode des dessins animés Il était une fois a été diffusé en France, eh bien Maestro et sa longue barbe blanche sont de retour sur le petit écran cette année pour le plus grand bonheur des petits comme des grands, Marie Jiquel.
Il n'avait pas pointé le bout de sa longue barbe depuis longtemps.
Je crois qu'ils étaient très contents de me revoir.
Maestro s'essaye désormais au skateboard ou au tennis dans cette nouvelle version d'Il était une fois.
Maestro n'a jamais quitté le petit écran, en tout cas la télévision française, mais il n'y avait pas eu de nouvelle série.
15 ans après la disparition de son créateur, Albert Barillet, un nouveau chapitre orchestré par sa femme Hélène Barillet.
On a gardé les attributs de Maestro. Sa barbe, ses antennes, son humour.
Un générique redynamisé.
Dans Il était une fois l'homme, le générique est emblématique. Il était avec la toccata de Bach. Eh bien, on a fait une petite allusion à la toccata et c'est d'ailleurs la musique emblématique de Maestro à travers les épisodes. Il y a des déclinaisons de la toccata quand Maestro arrive.
Des dessins plus contemporains.
On a dû s'adapter à un nouveau rythme des épisodes, à de nouvelles technologies.
Maestro n'est pas prêt de refermer le manuel de la vie.
Non, non, Maestro a une longue vie devant lui.
Comme sa longue barbe.
Comme sa longue barbe.
Marie Jiquel, spécialiste culture à Europe 1.
Merci Alexis. Il est 8h20 sur Europe 1. Anthony Cazemarec, il y a quelques brouillards ce matin, attention sur la route.
Oui, un peu comme hier matin, en fait, entre la Nouvelle-Aquitaine et le centre-Val de Loire. C'est le cas par exemple actuellement du côté de Mont-de-Marsan ou encore de Châteauroux, mais aussi de Romorantin, donc prudence sur les routes. Ces brouillards vont rapidement se dissiper. Et dans une bonne moitié sud du pays, tout comme dans l'est, hein, du sud de l'Alsace jusqu'à la Côte d'Azur, vous aurez encore beaucoup de soleil aujourd'hui, à peine un fin voile de nuages, peut-être quelques cumulus de beau temps, c'est vous dire, sur le massif central, et un peu de grisaille côtière sur le sud de l'Aquitaine. Et puis sur un bon quart nord-ouest, il y aura des nuages ce matin, une toute petite dégradation. Nuages surtout entre les Pays de la Loire, l'Île-de-France, la Normandie et les Hauts-de-France. Et ces nuages vont même se désagréger un peu au fil des heures et laisseront passer des éclaircies. Mais enfin, ce sera quand même moins bleu qu'hier sur cette petite moitié nord, donc au nord de la Loire, en allant jusqu'à la Champagne et à la Lorraine. Et puis peut-être quelques gouttes en soirée sur le nord de la Bretagne, avec un voile de nuages de plus en plus épais, donc une atmosphère quasiment grise en fin de journée pour les côtes de la Manche.
Et des températures qui sont en baisse.
Qui sont en baisse, notamment dans le quart nord-ouest, évidemment sous les nuages. Plus que, si j'ose dire, 14 à 21 degrés, mais ce qui reste quand même doux hein, pour une mi-avril. Vous aurez 14 à Cherbourg cet après-midi, 16 degrés à Lille et à Caen, 18 à Rouen, 19 à Reims et à Alençon, 21 degrés pour Paris et Nantes. En revanche, sous le ciel bleu et le soleil au sud et à l'est, les températures estivales ne vont pas bouger d'un poil par rapport à hier. Encore 25 degrés à Bourges, 26 à Strasbourg et à Marseille, 27 à Clermont-Ferrand, 28 à Lyon et Bordeaux et 29 degrés pour ne pas dire 30 à Grenoble, à Toulouse, à Limoges et à Pau.
Merci beaucoup Anthony, les 7h42 sur Europe 1. On continue de suivre cette attaque de drones et de missiles de Téhéran sur Israël avec le général Paloméros qui sera l'invité d'Europe 1 Matin Week-end dans une petite demi-heure à présent, mais la suite de nos programmes également c'est dans Europe 1 Matin Week-end avec Paris s'il est sorti, Nicolas Caro et Laura Tenoudji qui arrivent. À tout de suite.
Europe 1.
Bonjour, c'est William Lémergie.
Balade en France.
Aujourd'hui à 11h, nous prendrons la direction d'Aulnay-sous-Bois pour visiter le conservatoire de l'aventure Citroën qui retrace toute l'histoire de la marque. Pour la séquence plein air, nous nous arrêterons à Albi pour une balade en paddle, oui, sur le Tarn.
Balade en France, William Lémergie sur Europe 1.
Je vous donne rendez-vous tout à l'heure de 11h à 12h30 sur Europe 1.
C'est la nouvelle Opel Corsa électrique?
Yes, of course.
Avec plus de 400 km d'autonomie?
Yes, of course.
Elle est cool à conduire?
Yes.
Des 99 euros par mois en électrique ou essence?
Yes, of course.
Découvrez nouvelle Opel Corsa disponible immédiatement dès 99 euros par mois.
Yes, of course.
Corsa électrique Corsa LLD 24 mois, premier loyer 3000 euros, bonus écologique 7000 euros déduit. Offre à particulier jusqu'au 30 avril, si acceptation par crédit part. Détails sur opel.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
À tous ceux qui réfléchissent sous la douche, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des spaghettis? Tiens, j'irai bien en Italie, moi. Si, señor. Non, ça c'est de l'espagnol. Est-ce que le rouge, ça énerve vraiment les taureaux?
Pour vous faire sortir de la douche, en ce moment, Intermarché vous offre jusqu'à 80% de remise immédiate sur du linge de toilette Armor Luxe en collectionnant les vignettes.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 23 juin, 10 euros d'achat égale une vignette, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com.
Tout savoir sur les taches brunes avec les laboratoires Vichy. Dans un instant, nous verrons comment apparaissent les taches brunes sur le visage, comment les corriger et les prévenir.
Notre première rencontre, Casablanca. Une douce soirée d'été, tu étais sublime dans ta robe longue quand j'ai ramassé ton foulard en soie.
Allez, on leur dit. C'était sur 10 ans demain.
Bon, c'est vrai, mais ta robe t'allait à merveille sur ta photo de profil.
Il arrive un moment où on arrête de se faire des films sur les rencontres. Provoquez le destin sur 10 ans demain et rencontrez des célibataires de plus de 50 ans.
Europe 1 matin week-end, 6h-9h, Lénaïque Monnier.
Dans un instant, sur Europe 1, Alban Le Prince pour un nouveau journal. Mais d'ici là, c'est Par ici les sorties. Nicolas Caro, Laura Tenoudji, bonjour à tous les deux.
Bonjour Lénaïque.
Oh, et là, vous me faites plaisir, Nicolas Caro, parce que dans La Voix et Livre, tout à l'heure, à 19h, c'est Richard Gottener qui sera là.
Ah, j'adore.
Ouais, on l'aime beaucoup.
Énorme. J'ai fait du chemin, c'est pas souvent. Il habite dans le centre de la France, Gottener, au milieu de la forêt, dans une chouette maison avec une chouette bibliothèque. Plein de trucs, beaucoup de vieux exemplaires de la série noire, par exemple. Grisby or not Grisby, Le Caf se rebiffe, de la littérature d'aventure, des classiques, des beaux livres aussi, avec des reproductions de Norman Rockwell. Mm-hmm. Les Brèves de comptoir de Jean-Marie Gouriot, on a beaucoup ri en les lisant, vous écouterez ce soir. Et puis alors, beaucoup de dictionnaires. Le Robert en 7 volumes, offert par sa maman. Il s'en sert à chaque fois qu'il écrit une chanson. Un mot l'emmène vers un autre. Et puis alors, il n'aime pas trop ça, mais quand même, il y a un dictionnaire de rimes aussi. Voilà pourquoi.
Ça peut vous éviter de perdre du temps pour rechercher une rime qui n'existe pas. Par exemple, enfin, je vais vous donner un exemple que vous devez connaître. Si vous cherchez une rime à merde, ben, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il faut conjuguer perdre. Voilà. Si vous cherchez absurde, vous allez tomber à part kurde, qui n'est pas facile à placer dans une conversation. Il n'y en a pas beaucoup. Donc ça peut vous éviter de perdre du temps pour chercher un truc.
Ah oui, c'est plutôt astucieux, effectivement. Ben alors oui, on va l'écouter ce soir, et puis on est content de retrouver la voix de Richard Gottener dans La Voix et Livre. Et puis votre coup de cœur, Nicolas.
Ah oui, génial. Ce roman à la couverture badass, un champ de tournesol au crépuscule, ciel orangé, une moto au premier plan, le Steve McQueen. Ah. C'est le titre chez Point, mais regardez, il y a deux auteurs connus, le français Caryl Ferret de la série Noire et le britannique Tim Willox, auteur génial et à succès de La Religion, par exemple, ou Les Rois Écarlates. Bref, deux romanciers haut de gamme pour un roman. Ils l'ont écrit en cadavre exquis. Vous savez, un chapitre chacun son tour, avec la traduction simultanée de Benjamin Legrand pour la partie Tim Willox. C'est complètement fou. 160 pages, ça va à toute vitesse.
Ah oui, ça se dévore en trois mouvements. Hein. Le Steve McQueen, donc style Caryl, signé Caryl Ferret et Tim Willox. Alors ce matin, vous, Laura, vous vouliez vous adresser en particulier à ceux qui ont de grands appartements, alors pas forcément notre cas, hein, ou des jardins, pas forcément notre cas non plus, ou aux artistes, en tout cas, qui cherchent des lieux.
Mais je sais pas, vous pouvez avoir une maison de campagne en Bretagne ou des amis. Oui, l'idée ce matin, c'est de promouvoir les pratiques artistiques dans des lieux non conventionnel. Mm-hmm. C'est le credo d'Ormure, une jeune start-up fondée par un metteur en scène, Martin Jeudy, et lauréate de l'appel à manifestation d'intérêt France 2030 dédié aux solutions de billetterie innovantes. Mm. Donc la plateforme donne la possibilité à un hôte et à un artiste de se rencontrer pour envisager de construire ensemble un événement culturel, qu'il s'agisse d'un spectacle, d'un concert, d'une exposition ou d'un récital de poésie avec Nicolas Caro par exemple.
Oui, on va accueillir Nicolas, tiens, à la maison, c'est une bonne idée. Qui finance?
Alors, c'est les spectateurs. Et là où, justement, c'est malin, c'est que la billetterie est inspirée du financement participatif. Le spectateur sait quel est l'objectif à atteindre. D'accord. Et si jamais l'objectif n'est pas atteint, eh bien, il n'y a pas d'événement, c'est annulé, ça évite de gaspiller beaucoup d'énergie pour rien. Et moi, je trouve ça absolument génial dans le jardin d'imaginer des concerts. Justement, ça reste intimiste. Aujourd'hui, la grande majorité des événements sont organisés dans une sphère privée. Mm-hmm. Mais l'objectif d'Ormure, c'est de les développer dans la sphère publique, dans les EHPAD, dans les hôpitaux. Et ça, je trouve que c'est génial.
Ah oui, c'est plutôt une jolie initiative en tout cas. Alors Laura, vous avez également, comme chaque semaine, un compte à suivre.
Oui, celui de Valentine Sled, journaliste culinaire talentueuse. Est-ce que ce serait dans les gènes? Puisque c'est la fille de l'animatrice Sophie Davant, qui travaille ici à Europe 1 toutes les après-midi, et du journaliste Pierre Sled, je m'arrive à prononcer son nom, mais on ne l'aime pas pour ça, mais juste parce que c'est une passionnée et surtout qu'elle ne tient pas sa langue dans sa poche.
Alors, en fait, 95% des cornichons que nous consommons en France proviennent d'Inde parce que ça pousse très vite et c'est très chiant à ramasser. Donc, ce qu'on paye dans les cornichons, c'est surtout la main-d'œuvre. Et donc, la maison Maille, notamment, a eu l'idée d'exporter sa production pour payer les gens que dalle, notamment en Inde. Et donc, la maison Maille a eu l'idée de relancer la production en France. C'est aussi pour ça que les cornichons coûtent une blinde. Mais pour une bonne raison.
Voilà. Ah bah voilà, ça balance un peu, ça dénonce.
C'est extrême, mais on voit qu'elle ne tient pas sa langue dans sa poche.
C'est vrai que c'est cher.
Il y a de l'engagement, c'est vrai que c'est cher. Et en plus, c'est bon.
Ça s'appelle Slade et Poivre, son compte.
Ah, c'est une. Bon, ouais, c'est mal, astucieux, c'est très malin. Bah, merci beaucoup. Laura, on vous souhaite un excellent dimanche.
Bon
Nicolas
dimanche.
Carreau, à tout à l'heure, 19h, dans La Voix est Livre et Europe1.fr pour retrouver cette chronique.
Vous écoutez Europe 1, il est 7h49.
Europe 1 matin week-end.
6h, 9h, Lénaïque Monnier.
L'heure du journal permanent, Alexis de la Fléchère.
Le Conseil de sécurité de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, va se réunir en urgence cet après-midi. Plus de 300 drones et missiles iraniens ont été tirés durant la nuit en direction d'Israël. Les États-Unis les ont presque tous abattus, selon Joe Biden, alors que l'Iran les appelle à rester à l'écart du conflit. Le Royaume-Uni déclare qu'il interceptera, si nécessaire, toute attaque aérienne. Des détonations ont été entendues par les habitants au-dessus de Jérusalem, mais selon Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien, le pays était préparé à cette attaque. Les écoles avaient été fermées hier. À noter aussi, on vient de l'apprendre, que l'espace aérien israélien vient de rouvrir. Et pendant ce temps, en Iran, des milliers de manifestants se sont rassemblés pour saluer cette attaque. A souligner aussi ce matin, le Mossad, les services de renseignement israéliens affirment que le Hamas a rejeté le dernier projet de trêve à Gaza. On termine avec du sport. Grâce à sa victoire hier en 29e journée de Ligue 1 de football face à Reims, 3-1, Strasbourg respire. En revanche, la série noire continue pour Rennes avec une nouvelle défaite face à Toulouse, 2-1. Trois matchs à suivre aujourd'hui. Le premier à 13h, Le Havre reçoit Nantes.
Merci beaucoup Alexis de la Fléchère. Il est 8h10 sur Europe 1. Vous restez bien avec nous. L'actualité très dense encore ce matin après cette attaque de Téhéran sur Israël, attaque de drones et de missiles. Le général Palomero sera l'invité d'Europe 1 matin week-end après le journal de 8h.
Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier. Bienvenue chez vous.
Allez, avant un nouveau journal sur Europe 1, avant de feuilleter le journal du dimanche, on accueille de nouveau Christophe Bordet. Rebonjour Christophe.
Rebonjour les amis, bonjour à tous.
Alors, il est toujours difficile, hein, Christophe, on le sait, d'obtenir un prêt immobilier, même si les taux d'intérêt diminuent.
Un petit peu.
Mais vous avez peut-être ce matin, pour les auditeurs d'Europe 1, une solution.
Oui, alors j'ai une solution, un type de crédit que les banques françaises ont du mal à délivrer aux particuliers, alors que chez nos voisins européens, c'est très banal. Mm-hmm. C'est vraiment simple, ça s'appelle le crédit hypothécaire. Comment ça marche? Réponse avec Maëlle Bernier de Meilleur Taux.
Par exemple, vous avez un prêt de 200 000 euros déjà, vous avez déjà remboursé 100 000 euros, par exemple, la moitié du prêt. On considère qu'on peut vous reprêter donc 100 000 puisque vous avez déjà en fait acquis 100 000 euros. Vous voyez, vous avez déjà remboursé la moitié du prêt.
Alors vous l'aurez compris, ça s'adresse, on s'adresse ici aux secondo accédants, ceux qui ont déjà un bien immobilier, qu'ils peuvent mettre en garantie donc pour emprunter une somme dans la perspective d'un nouvel achat ou pour payer des frais de succession. Il arrive souvent que l'on soit obligé de vendre un héritage que l'on reçoit faute de moyens financiers. Et bien là, avec le prêt hypothécaire, on est entre guillemets sauvé. Alors c'est un prêt avantageux pour différentes raisons, comme me l'a dit le patron de Praxi Finance qui opère ce genre de produit en France. Il s'appelle Boris Intini.
Nos prêts hypothécaires sont distribués sans assurance emprunteur, sans questionnaire de santé et sans limite d'âge.
Un point négatif, le goût du prêt hypothécaire. Ah oui. Eh oui, c'est pas donné, Maëlle Bernier.
Je pense, moi, que les Français ne vont pas adhérer, que les banques ne vont pas adhérer. Et puis, n'oublions pas que dans ces types de prêts, c'est des prêts qui coûtent plus cher que le prêt classique. On est quand même un point et demi au-dessus.
Bon, alors c'est vrai que les Français ont un peu de mal à adhérer. Moi, je l'ai déjà fait.
D'accord.
Je l'ai déjà fait et franchement, c'était impeccable.
D'accord, pas de mauvaise surprise.
Mais non, pas de mauvaise surprise, parce que j'ai payé une mensualité beaucoup moins élevée parce que mon bien était justement en garantie. Et lorsque j'ai revendu, je m'en suis extrêmement bien sorti. Donc voilà, je ne comprends pas la frilosité de la France par rapport à ça. Il n'empêche que le ministre de l'écologie...
La peur de perdre sa maison originelle.
Oui, bon, écoutez, franchement, il faut prendre des risques dans la vie. Le ministre de l'écologie qui cherche des solutions justement auprès du ministre du logement pour qu'il y ait des nouveaux prêts, eh bien, il est en train de travailler sur le sujet avec les banques. On verra si les banques françaises y vont ou n'y vont pas.
Eh bien, merci beaucoup Christophe Bordet, Europe1.fr pour écouter cette chronique.
Vous écoutez Europe 1 Matin Week-end jusqu'à 9h et il est 7h53.
L'heure comme chaque dimanche de retrouver Geoffroy Lejeune pour la lecture du JDD. Bonjour Geoffroy.
Bonjour Lénaïc.
Directeur de la rédaction du journal du dimanche. Et ce matin, un grand entretien que vous a accordé le président du Sénat, Gérard Larcher.
Gérard Larcher qui est le deuxième personnage de l'État et qui s'en prend au premier personnage de l'État. Vous savez que cette semaine, la demande de référendum des Républicains sur l'immigration a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Les Républicains prennent ça un peu pour une ruse du pouvoir. Et donc Gérard Larcher met la pression sur le président de la République, sur tous les sujets quasiment. Il parle de djihadisme d'atmosphère, il parle évidemment d'insécurité, il parle d'immigration, il parle de l'organisation en fait des pouvoirs. Il laisse même entendre d'ailleurs qu'il pourrait être intéressé par la perspective de la présidentielle de 2027. Il parle aussi également de la motion de censure. On entend beaucoup parler en ce moment des Républicains qui hésiteraient à rallier le camp de ceux qui votent la motion de censure contre le gouvernement. Et ben, il dit que tout simplement, si une politique est mauvaise, il faut savoir l'arrêter. Et donc potentiellement, à la prochaine fois qu'il y aura une motion de censure, les Républicains pourraient la voter. Ça, c'est une annonce nouvelle et importante.
Et alors ce matin, dans le journal du dimanche, Geoffroy Lejeune, beaucoup d'actualités. Qu'allons-nous découvrir dans vos pages ?
C'est un sommaire très riche. Il y a déjà une interview, il est très rare dans les médias, du gouverneur de la Banque de France qui nous explique que le déficit de la France, le dérapage des finances publiques est très inquiétant, qui nous explique aussi par contre que la lutte contre l'inflation est en passe d'être gagnée. Il y a aussi également les confessions de Stanislas Wawrinka, le champion de tennis. Lui aussi, on n'entend pas souvent dans les médias en France, donc c'est très sympathique de le retrouver. Puis c'est un journal du dimanche, je vous le dis toutes les semaines, donc c'est un journal où il faut se détendre. Il y a un entretien extraordinaire pour ceux qui aiment la musique, c'est mon cas, du guitariste mythique des Dire Straits, Mark Knopfler, qui est une légende également, qui d'ailleurs a eu à un moment donné tellement de succès, c'est ce qu'il raconte dans cette interview, qu'il a dû arrêter d'ailleurs Straits au plus grand désespoir de tous ses fans pour faire une carrière plus confidentielle. Mais c'est vraiment un choix de sa part. Il raconte tout, il raconte comment il a composé, comment il a changé, l'évolution de sa carrière, les grandes heures de Dire Straits. C'est absolument génial.
Et on a besoin d'un peu de culture en ce moment, vu l'actualité. Geoffroy Lejeune, merci beaucoup, bon dimanche.
Merci, bon dimanche à vous.
Bon dimanche à toutes et à tous sur Europe 1. Il est 8h05 et notez bien ce rendez-vous demain. C'est Jean-Pierre Foucault, animateur historique d'Europe 1. C'est le taulier, hein. Et c'est lui qui va prendre les commandes de Culture Média pour toute la semaine d'ailleurs. En l'absence de Thomas Hill, ce sera évidemment entre 9h30 et 11h sur Europe 1. Demain, dans votre émission de référence sur les médias, Jean-Pierre Foucault recevra deux invités. D'abord Cyril Hanouna, que vous retrouvez tous les jours sur C8 pour Touche pas à mon poste, mais aussi l'acteur et scénariste Francis Perrin. Demain, donc, et toute la semaine, Culture Média sur Europe 1, entre 9h30 et 11h, présenté par Jean-Pierre Foucault. Des nouvelles des auditeurs d'Europe 1, toujours connectés et fidèles au poste, hein, sur la page Europe 1 matin week-end. Laurent est du côté d'Angers, avec un ciel nuageux. Oui, c'est par le nord-ouest, hein, que la dégradation arrive, et 9 degrés actuellement. Geneviève est à Cazaux en Gironde avec 10 degrés et il pourrait y avoir quelques grisailles côtières sur cette côte aquitaine cet après-midi. Et puis Chantal est du côté de Menton dans les Alpes-Maritimes avec 19 degrés. Un ciel dégagé, oui, 19 degrés, c'est là qu'il a fait le plus doux cette nuit dans le sud-est.
Et on fera un point complet sur la météo d'ici quelques instants. Anthony Kazmarek, je précise que dans un instant, le journal de 8 heures d'Europe 1 arrive avec Alban Le Prince et un dossier consacré, bien entendu, aux événements de la soirée et de la nuit. Et cette Téhéran qui a lancé hier soir des drones, des missiles contre Israël. Quelles sont les conséquences ? Le monde a-t-il basculé ? Nous y reviendrons avec l'invité d'Europe 1 matin week-end, juste après le journal de 8 heures. Ce sera le général Paloméros. A tout de suite. Il est quasiment 7h05 sur Europe 1.
Europe 1.
Bonjour, c'est Pascal Praud sur Europe 1.
Oui, bonjour Pascal.
Ce qui compte, c'est vous.
Je pense que vous êtes la voix de personnes qui n'osent rien dire et qui sont majoritaires quand même dans ce pays.
Il faut se réveiller un petit peu à un moment donné.
Je sors pas le soir non accompagné.
Est-ce que c'est normal ?
Pascal Praud et vous.
Merci d'être comme vous êtes tous, au cœur des choses.
Alors je vous attends de 9h à 9h30 et de 11h à 13h. À demain sur Europe 1.
Gamme professionnelle Citroën. 100 ans de passion avec les pros.
Mon Citroën Berlingot, qu'il est pro, qu'il est beau. Avec son nouveau design et ses sièges Advanced Comfort, je me sens bien avec lui.
Nouveau Citroën Berlingot Van. Tout nouveau, tout beau, très beau. À partir de 199€ hors taxes par mois pendant les jours pro. Existe aussi en version électrique.
Électrique.
Citroën.
Crédit bail 60 points, 100 000 km. Premier loyer de 4 819€ hors taxes. Offre professionnelle jusqu'au 30 avril. C'est acceptation crédit par. Maintenance plus incluse. Détails sur citroën.fr.
Et voilà. Depuis qu'il a été chez Atoll, papa, il peut de nouveau voir son poids sur la balance. Mais voilà, il faut quand même qu'il rentre le ventre.
Bénéficiez d'un examen de la vue offert chez votre opticien Atoll en prenant rendez-vous sur atoll.fr. Atoll. Ce test n'est pas un examen médical. Voir conditions sur atoll.fr.
Visio Confucius.
Tu vois, toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuelle, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuelle, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Je voulais vous remercier pour votre application Mon Leclerc.
C'est gentil, madame.
Ah bah oui, parce qu'entre les applis pour éclater du papier bulle virtuel, celle pour avoir une voix d'alien et celle pour caresser des chats, ah bah ça fait du bien, une appli qui sert enfin à quelque chose.
Toutes nos promos toute l'année, tous vos tickets Leclerc à portée de main et des bons de réduction personnalisés. L'appli Mon Leclerc, elle a tout pour défendre votre pouvoir d'achat. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre également consultable sur www.e.leclerc.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous informer en ce dimanche matin. Bienvenue, il est 8h.
Europe 1 matin week-end.
6h, 9h.
Lénaïque Monnier.
L'heure d'un nouveau journal en présence d'Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Le monde va-t-il basculer ? Question ce matin après cette attaque inédite menée par l'Iran cette nuit en Israël. Cible de plus de 300 drones et missiles. Nouvelle escalade qui risque d'embraser la région.
L'Iran qui appelle les États-Unis à rester à l'écart du conflit après l'intervention des forces américaines pour abattre des drones. Joe Biden réitère son soutien inébranlable. Précision à suivre de la correspondante aux États-Unis de
Et puis le cauchemar pour le gérant du...